Cette semaine, nous lisons la Paracha Béchalar, qui présente la sortie d'Égypte. Dans un des premiers versets, il y est écrit ceci: Vaïkach Moshe et Tsratzmot Yosef Rimo. Moshe prit avec lui les ossements de Yosef, car Yosef avait fait jurer aux enfants d'Israël: Dieu vous visitera et vous ferez remonter d'ici mes ossements avec vous. Vous ferez remonter mes ossements avec vous. Le peuple d'Israël a donc ramené la dépouille de Yosef pour être enterré en terre d'Israël. Cette semaine, les ossements de Ran Gvili, Zichrono Livracha, dernier otage enlevé le 7 octobre à Gaza, ont été enterrés en terre d'Israël, aujourd'hui même d'ailleurs. Comment ne pas voir le lien? D'autant que selon la tradition juive, la paracha de la semaine exprime un lien avec l'époque. Cette affirmation est fondée sur plusieurs principes, plusieurs enseignements rabbiniques. La Torah est éternelle, elle s'applique à toutes les époques, elle contient des allusions à toutes les générations. Les Mekoubalim enseignent même que les lectures de la Torah sont en harmonie avec les temps. Et de fait, depuis le Baal Shem Tov notamment, les Hassidim affirment que la paracha éclaire la vie de la semaine. Donc, je voulais commencer cette petite intervention en rappelant qu'une fois de plus, nous constatons le lien entre la semaine et la paracha. Dans cette paracha, après avoir renvoyé les Hébreux, Pharaon a regretté sa décision. Il a lancé sa cavalerie à leur poursuite. Et les Hébreux se sont trouvés bloqués entre la mer et l'armée égyptienne. Contre toute attente, la mer s'est ouverte pour les laisser passer. Les Égyptiens les ont suivis, mais on le sait tous, les flots se sont refermés sur eux, alors que les Hébreux sortaient indemnes sur la terre ferme. Et cette paracha va donc exprimer les louanges à l'intention de Hachem après ce nouveau miracle. Sous la conduite de Moshe, ils chantèrent, les femmes chantèrent sous la conduite de Myriam. La paracha relate ensuite la vie dans le désert avant l'arrivée au Sinaï, avant le don de la Torah. Et l'on constate que des plaintes se font entendre au cours des premières étapes, mais les problèmes disparaissent grâce à des solutions miraculeuses. L'eau ne manque plus, des sources amères étant adoucies par Moshe. Puis les Hébreux découvrent 12 sources à l'étape suivante. Ils boivent de l'eau miraculeusement sortie d'un rocher. Ils vont obtenir de la viande et du pain en abondance. La viande fournie par des cailles qui couvrent le camp en énorme quantité. Et quant à la manne, pain du ciel, qui apparaît sur le sol comme une couche de rosée ou comme une fine croûte de givre, eh bien, elle va nourrir les Hébreux jusqu'à leur arrivée en Eretz Israël. Et la paracha va se terminer avec l'attaque des Amalécites qui furent vaincus. Donc, parmi tous les nombreux sujets que l'on a dans cette paracha, essayons de nous centrer sur celui des miracles. C'est un sujet tout à fait central, considérable, et qui, bien entendu, interroge. Nous avons eu, dans les dernières parachas, et dans la présente, mention de miracles. Il y a eu des plaies miraculeuses qui ont frappé les Égyptiens. Puis la traversée de la mer à pied sec, miracle en soi. Engloutissement des armées de Pharaon par la même mer lors de ce passage. Et de plus, toute cette fourniture d'eau et de nourriture aux Hébreux pour qu'ils s'alimentent dans le désert. Donc on voit que tout cela est très fortement coloré par des miracles. Alors sur ce sujet, on doit dire que la majorité des scientifiques laïcs considèrent les miracles bibliques non comme des événements surnaturels, mais comme des récits symboliques ou théologiques, ou des interprétations de phénomènes naturels, ou encore un simple discours religieux. La science moderne est donc fondée, et on le sait, et c'est juste, elle est fondée sur l'observation, sur les lois naturelles. Elle ne reconnaît donc pas les miracles comme des événements historiques qu'elle pourrait comprendre, parce que ces miracles supposent une suspension des lois de la nature. Et des psychologues considèrent même que le cerveau humain est prédisposé à attribuer des intentions ou des causes surnaturelles à des événements inhabituels. Bon, certains auteurs ont proposé des explications au récit biblique pour comprendre le comment des miracles. D'autres les réduisent purement et simplement à des phénomènes naturels. Ainsi, une crue aurait charrié des sédiments, des boues rouges avant la lettre, ou des algues toxiques rouges. Il s'en serait suivi que les grenouilles ont fui le fleuve et ont envahi les maisons. Et puis elles sont mortes. Et leur mort a causé la prolifération de parasites. Des épidémies, des ulcères ont frappé le bétail, les hommes. Les récoltes ont été détruites par la tempête de grêle, bien sûr, puis par des essaims de sauterelles. Et enfin, disons, neuvième plaie biblique. La grêle, donc, est arrivée, puis une éruption, la neuvième plaie, c'est l'éruption du volcan Théra de Santorin, dit-on, situé à 120 km au nord de la Crète, au XVIe siècle avant l'ère vulgaire, et il aurait causé, ce volcan, 3 jours de ténèbres. On ajoute que les premiers-nés, s'ils sont morts, et si ce sont les premiers-nés qui sont morts seulement, ben c'est une affaire seulement d'intoxication alimentaire. Parce qu'il y avait une habitude qui voulait que dans toutes les familles, riches ou pauvres, on nourrissait d'abord le premier-né. Donc, ils ont été intoxiqués les premiers, ils sont morts et les autres ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas mangé. Bon, voilà un petit peu le genre de choses que l'on entend. Bien entendu, c'est à des kilomètres des conceptions de notre tradition, car au contraire, la tradition juive affirme que Dieu n'est pas limité par les lois de la nature. Eh bien, tout simplement, il a créé le monde, et l'ayant créé, il peut agir à sa guise. On considère plusieurs approches à ce niveau-là, que les miracles sont des interventions directes, voulues, ponctuelles, de fonctionnement de la nature, et même en soi un miracle continu, le monde étant en quelque sorte maintenu à chaque instant, sans quoi il s'effondrerait. L'argument est donc le suivant, celui que je viens de dire, que je répète, Dieu a créé les lois de la nature, il peut donc les suspendre. Autre approche. Vous me permettrez simplement une chose, si vous le voulez bien, je ne cite pas mes sources. Hein. Ce serait trop long, on n'y arriverait pas. Qui voudrait vérifier pourrait, pour la plupart d'entre elles en tout cas, vérifier dans les ouvrages que j'ai publiés où je donne mes sources abondamment. Là, ce n'est pas possible, je crois, d'agir ainsi. Voilà, autre approche. Dieu agit à travers la nature. Le principe est le suivant. Les miracles ne violent pas les lois naturelles, mais utilisent des phénomènes rares ou synchronisés. Le miracle résiderait ainsi dans le timing, pas dans la rupture des lois. Dieu agirait par la nature, les miracles étant programmés dès la création. Et ainsi, on peut essayer d'expliquer que la mer Rouge se serait ouverte grâce à un vent puissant. Mais ce qui était miracle, c'était le timing. À ce moment précis où les Hébreux avaient besoin, la mer s'est ouverte. Mais voyez-vous, on a là des tentatives un peu délicates, difficiles. On voit des gens, des maîtres même, qui sont embarrassés par rapport à la culture environnante. Au lieu d'affirmer purement, clairement et simplement, les miracles sont des interventions divines, voulues par Hachem, et au moment où ils le décident, bien ils essaient de dire, oui, on comprend, ça pourrait bien être la nature, mais regardez, le timing, ça c'est le miracle. Bon, pourquoi pas? On a encore une autre approche. C'est une approche qui insisterait sur le fait que les récits bibliques expriment des vérités spirituelles profondes, des idées, et ce ne sont pas des reportages. Donc à la limite, si l'on n'a pas une description précise, c'est pas important, on est en train de parler d'idées profondes, on est en train de parler de révélations. Et donc cette approche-là considérait que les miracles sont avant tout des manifestations visible de réalité cachée. Le surnaturel n'est pas une exception, mais une dimension permanente. Les miracles révèlent des lumières supérieures et à la limite, tout événement, même minuscule, est providentiel. Avec l'ouverture de la mer Rouge, pour prendre un miracle parmi d'autres, pour essayer d'approfondir sur un cas, avec cette ouverture de la mer Rouge, nos maîtres voient un événement bien plus vaste qu'un simple miracle historique, entre guillemets simple, bien sûr. La mer, ce serait en fait le domaine du caché. La terre sèche, le domaine du révélé. L'ouverture de la mer, c'est la brisure momentanée du voile entre les deux mondes. Bientôt, dimanche prochain, on va fêter Tu Bishvat et il est d'usage de casser des fruits secs. Pourquoi les casser? Pour casser les clipotes, pour casser les écorces qui nous empêchent d'accéder à l'essentiel. Disons, on ne voit pas la dimension spirituelle du monde, on ne voit qu'une dimension matérielle. En cassant ces écorces, ceux qui pratiquent ce seder de Tu Bishvat en ayant une dimension kabbalistique, ils vont casser les écorces en se rappelant qu'il faut les casser pour arriver à voir l'essentiel. Donc, ce qui est ici en allusion, l'ouverture de la mer, c'est la brisure momentanée du voile entre le monde qui correspond au domaine caché et à ce qui correspond au domaine visible. C'est aussi, au niveau du Sod, la mer Rouge correspond à la Séphira Malchoute, c'est-à-dire qu'en s'ouvrant, les lumières supérieures se dévoilent. Et il est d'usage, le Midrash nous le dit, une servante a vu alors ce que le prophète Yahezkel n'a pas vu. Voyez, on parle d'une servante, sous-entendu quelqu'un qui n'a pas étudié la Torah, qui n'a pas de connaissances approfondies dans la Torah simple, voire même à toutes les dimensions du Pardès. Et pourtant, à ce moment-là, au moment de la traversée de la mer Rouge, elle en a vu plus, elle a compris plus que le prophète. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, c'est, disons, la chute des barrières qui rendaient le caché invisible. La mer est aussi associée au din, à la rigueur. Et l'ouverture symbolise la transmutation du din en rahamim, de la rigueur en miséricorde. Israël traverse alors au milieu d'un jugement adouci. C'est pourquoi la mer s'est ouverte sur Israël, mais elle s'est refermée sur les troupes égyptiennes, car le même flux spirituel agit différemment selon la capacité de réception. Enfin, sur toujours cette déchirure de la mer, on peut considérer la lecture chassidique. Pour elle, ou en tout cas pour une partie de la lecture chassidique sur ce sujet, la mer Rouge, ce serait une sorte de symbole des blocages intérieurs de chacun. On a tous des blocages intérieurs, on tente de les dominer, des peurs, des conditionnements, des limites psychiques, voire même des dépendances émotionnelles ou autres. L'ouverture de la mer, c'est la libération intérieure. C'est le moment où l'âme accède à un espace qu'elle croyait infranchissable. Et c'est donc en sorte une espèce d'encouragement pour dépasser nos blocages intérieurs et savoir les vaincre et aller au-delà. Cette ouverture de la mer, en définitive, c'est une unification du monde d'en haut et du monde d'en bas, ce qui permet la révélation de la présence divine, la naissance spirituelle d'Israël comme peuple et une préparation mystique au Sinaï, au don de la Torah. Alors, à propos de ces miracles, on peut mentionner qu'il y a eu, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu aussi le miracle de la manne. Eh bien, c'était un miracle en soi. Mais c'était aussi intéressant de voir ce qui s'est passé le Shabbat, parce que Dathan et Abiram, les contestataires, sont sortis du camp la nuit du Shabbat. Et parce que Moshe avait annoncé prélever une double part chacun, parce que il n'y aura pas de manne Shabbat. Donc, que vous ayez chez vous la part du Shabbat. Eh bien, Dathan et Abiram, contestant Moshe, ont trouvé une idée géniale, répandre de la manne pour que, récolter la veille, bien sûr, de manière à déprécier Moshe aux yeux du peuple. Eh bien, Dathan et Abiram ont voulu prouver que Moshe se trompait. Il y a eu de la manne ce jour-là aussi. Mais lorsque les deux contestataires ont appelé les curieux à vérifier l'erreur de Moshe, eh bien, ils ne trouvaient rien. Il n'y avait pas de manne. La manne qu'ils avaient répandue n'était plus là parce que des oiseaux étaient venus avant eux et ils avaient déjà fait disparaître toutes les traces de cette manœuvre malveillante. C'est en souvenir de cette contribution des oiseaux en faveur de Moshe que nous avons un usage. Beaucoup de communautés et de familles ont cet usage de distribuer des graines ou de la nourriture aux oiseaux en signe de gratitude lors de cette semaine où la paracha est lue publiquement à la synagogue. Voilà donc, en général, pendant cette semaine, on va distribuer un peu de nourriture aux oiseaux en les remerciant d'avoir aidé Moshe dans cette contestation malveillante. Bon, on a essayé d'examiner le côté rationalisant de certains penseurs en disant, mais bon, les miracles, d'abord, ils peuvent ne pas exister du tout, vous avez rêvé, c'est une discussion, c'est des arguments idéologiques pour dire que vous êtes les meilleurs, mais soyons sérieux, nous n'avons pas de preuves, de même que l'âme, personne, aucun médecin ne l'a trouvée sous son, aucun chirurgien ne l'a trouvée sous son bistouri, donc elle n'existe pas forcément. La Torah avait anticipé les doutes ultérieurs sur la réalité des grands miracles survenus lors de la sortie d'Égypte. Aussi, la Torah explique-t-elle que chaque miracle dépassait tout ce qui aurait pu être considéré comme un accident ayant des causes naturelles, des causes météorologiques ou bien géologiques, par exemple. Prenons le cas de, une fois de plus, de la déchirure de la mer des gens. Eh bien, on peut nous annoncer que c'est un phénomène naturel, il pouvait y avoir une marée basse ou bien un vent puissant qui a ouvert la mer. Mais si c'était un vent ou une marée, ce phénomène naturel se serait probablement affaibli progressivement avec la lente remontée des eaux, l'affaiblissement du vent. Ou bien, quant à ce qui est annoncé à propos de l'obscurité, le panache de cendres venu du nord de la Crète, au bout de 3 jours, l'obscurité diminue, les cendres se font moins denses. Et puis, la Torah nous précise, Bayabasha, les Hébreux ont marché à sec, à sec. Or, si c'était un phénomène naturel, il y aurait eu ici ou là des flaques d'eau. On ne peut pas imaginer que l'eau se retire. Tout le monde, tous ceux qui ont été se promener sur une plage à marée basse, voient bien qu'on n'est pas à pied sec, la terre est mouillée. Et de plus, il y a ici ou là des flaques d'eau. De plus, nos maîtres expliquent que ce passage se faisait entre des murailles d'eau transparente et non pas au milieu de terre sèche, ou plus ou moins sèche, entourée de, disons, de mer, plus ou moins plate, quoi. On a là des murailles. Aucun phénomène naturel ne peut rendre compte de murailles. La Torah est d'habitude économe, économe en mots. Ici, elle se répète massivement à propos de ce miracle. C'est peut-être même, si on examine les choses attentivement dans ces versets, un cas extrême de répétition dans la Torah. Regardons les versets. Les différences tiennent à un mot et à une lettre. Quand il est écrit dans Shemot 14, 22, les enfants d'Israël viennent au milieu de la mer à sec, les eaux sont pour eux des remparts. à la droite et à la gauche. Ce n'est pas le Midrash, c'est la Torah qui parle. Et un peu plus loin, il nous est dit, dans Shemot 14, 29, il nous est dit pratiquement la même chose. Les enfants d'Israël vont à sec au milieu de la mer, les eaux pour eux sont des remparts à leur droite et à leur gauche. Donc on a très, très, très peu de différences. On a un mot qui diffère. Il y a vohu dans l'un et alchu dans l'autre. Sur les 11 mots du verset, 10 sont quasiment identiques, dont 5 identiques en tout, consonnes, voyelles, semi-voyelles, accents musicaux. Une identité des deux versets à près de 91%. En fait, on constate plus de ressemblances que de différences. Les différences concernent le verbe venir au début de la traversée, marcher au début, aller à la fin. La position dans la phrase, bayavacha, à sec, au début. Ce qui est le plus impressionnant, c'est l'entrée au milieu de la mer. À la fin de la traversée, l'étonnement initial s'est émoussé, mais le fait de marcher toujours à sec reste le plus merveilleux. On a un vav supplémentaire dans muraille qui disparaît. Bon, vous voyez, je pourrais continuer tous les détails. On voit que c'est pratiquement le même verset. Donc on a une insistance sur ce n'est pas un hasard. Par ailleurs, le Midrash Mechilta donne l'explication suivante à l'absence de vav dans le mot homa, homa muraille. Il faut lire hema avec la voyelle tséré, c'est-à-dire colère. Les eaux étaient en colère auprès des enfants d'Israël parce qu'ils transportaient une idole. Il s'agit de la plaque sur laquelle Moshe avait écrit le nom de Hachem, qui avait été jetée dans le Nil pour faire remonter le cercueil de Yosef, dont on parlait au début de ce cours. Mais Micha s'en est emparé en cachette et l'a ensuite utilisé pour fabriquer le veau d'or. Donc, l'absence de vav s'explique, selon le Midrash, par le fait que les eaux étaient scandalisées de savoir qu'il y avait une idole qui cheminait dans la déchirure de la mer. Regardons à présent, on a vu la question de la déchirure de la mer. Autre miracle. On voit bien que la Torah ne va pas du tout dans le sens de oui, on pourrait dire que oui, peut-être, marée basse, non, pas du tout. La Torah est complètement claire là-dessus. Après, on croit ou on ne croit pas, c'est une autre affaire. Mais on ne peut pas inventer que la Torah n'est pas claire dans ce qu'elle explique. Voyons à présent un autre miracle, celui des ténèbres. L'hypothèse scientifique, c'est l'éruption volcanique du volcan Terra à Santorin. On a des légendes là-dessus, on a l'Atlantide, on a des tas de choses à propos de cette éruption géante qui est survenue environ 1600 ans avant l'ère vulgaire. Eh bien, cette éruption a été systématiquement reliée aux plaies. Et on nous dit même que c'était certes lié à la plaie, elle était censée expliquer la plaie de l'obscurité, épais nuages de cendres et de poussière projetés par l'éruption, masquant le soleil pendant plusieurs jours. On a d'autres exemples, hein, au 19e ou 20e siècle, de volcans qui ont émis des poussières de ce genre et qui ont mis 3 jours à se dissiper. Donc ce n'est pas aberrant de parler de 3 jours, mais nous, nous n'avons pas 3 jours, on verra, il y en a 6. Et l'intensité va en s'aggravant et non pas en diminuant pour les 3 derniers jours. On a donc la plaie qui pourrait éventuellement être expliquée, mais il est même dit par cette pensée que c'est bien plus que cela. Le Nil est devenu rouge. Pourquoi? Parce que les eaux aurait été coloré par des cendres volcaniques. Et de là, il y aurait eu prolifération d'algues ou de bactéries poussant les grenouilles à quitter l'eau, etc. Donc on voit dans toute la chaîne qui se poursuit, les insectes qui se développent sur les cadavres de grenouilles, les maladies du bétail, des êtres humains, bref, une réaction en chaîne écologique et environnementale qui serait causée par l'éruption, et donc pas du tout des phénomènes surnaturels On n'y est pas du tout. Et on a un document remarquable qui s'appelle la stèle de la tempête. Enfin, un document, la stèle de la tempête. C'est en fait sur un monument érigé dans le temple de Karnak par le pharaon Amosis Ier, le fondateur de la 18e dynastie. C'est-à-dire après le départ des Hébreux, après la fin de la dynastie des Hyksos. Eh bien, ce pharaon a relaté dans la pierre une catastrophe naturelle majeure. On peut considérer qu'il a relaté les 10 plaies d'Égypte. En tout cas, il y a eu une datation, tout récemment d'ailleurs, une datation au carbone 14 des briques de terre utilisées pour construire ce fameux temple de Karnak, et on a constaté que, à la louche, grosso modo, on est vers l'an 1500 avant l'ère vulgaire, c'est-à-dire la période qui suit les batailles d'Amos contre les Hyksos, et donc, puisqu'on a même des scènes de bataille sur ce monument-là, et donc que l'on se situe à la sortie de l'esclavage, après la sortie d'Égypte. Et cette stèle décrit, c'est en quelque sorte, on peut nous considérer que cette stèle est un document, entre guillemets, archéologique, validant, si besoin était, ce que nous explique, ce qu'explique la Torah à ce propos, au propos des plaies. La stèle décrit des pluies, des inondations, des ténèbres, des bruits assourdissants. Et on l'a découvert, cette fameuse stèle, vers 1950. Voilà quelques extraits. À la ligne 8, le mécontentement des dieux a causé l'obscurité dans la région de l'Ouest. Ligne 9, 8 et 9, le ciel était déchaîné. Ligne 18, tout ce qui a existé a été annihilé. Donc voyez-vous, on a là un acte fin, comme on dit, archéologique, qui décrit des phénomènes climatiques catastrophiques. Et de nombreux chercheurs ont donc suggéré que cette éruption faisait allusion, non, pas aux 10 plaies, à l'éruption du fameux volcan de Santorin. L'hypothèse scientifique implique que c'est ces cendres qui ont causé l'obscurité. Bon, certes, c'est peut-être le comment dont parlaient certains analystes, certains même rabbins. Le miracle prend la forme de la nature, mais que Hachem se servant de la nature pour agir. Mais cela n'explique pas. Parce que là, ici, la neuvième plaie serait la première, puisque c'est elle qui a causé les eaux rouges, etc. Et de plus, au bout de 3 jours, l'obscurité aurait dû cesser, ou au moins se dissiper, puisque le Midrash précise qu'il y eut deux intensités différentes lors de la plaie de l'obscurité. Les jours 4, 5, 6 furent les plus obscurs. Le texte nous précise même très clairement que les Égyptiens ne purent pas même se lever de leur place tant l'obscurité était dense. Mais chez tous les enfants d'Israël, en même temps, il y avait de la lumière. Alors c'est curieux, qu'est-ce que c'est que ce panache de cendres qui obscurcit tout le ciel d'Égypte? Mais chez les Hébreux, il n'y a pas de panache de cendres, donc ça va, il n'y a pas de problème. On nous dit bien, Ulchol ben Israël, aya or. Bé Moshvotam. Il n'y avait pas de problème. Là où ils étaient, eux, il y avait de la lumière. Alors, c'est là où on nous explique que les Hébreux ont pu rentrer dans les demeures des Égyptiens, ont vu tout ce qu'ils pouvaient y avoir comme objets précieux, comme récipients d'argent, d'or, de vêtements. Et quand ensuite les Égyptiens ont voulu leur donner des présents pour qu'ils partent, eh bien, il disait, oui, j'ai pas grand-chose, tiens, tu prends ça. Il dit, non, non, je sais que là, dans ce placard, tu as ceci et cela. Et c'est là, pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà exploré. Alors, leur obscurité des maisons égyptiennes, dense au point qu'ils ne pouvaient pas se lever, eh bien, on le constate, elle n'était absolument pas gênante pour les Bnei Israël. Voilà, ce sujet sur les miracles méritait qu'on lui consacre la totalité de la séance. On voit bien que le miracle, eh bien, pour nous, nos maîtres expliquent ce qui s'est passé. Après, que les scientifiques veulent ou pas y croire, c'est leur affaire, hein. Ils ont tout à fait le droit. Nous, on nous a transmis ceci, eh bien, on a la faiblesse d'y croire. Et l'on voit aussi qu'il y a une corrélation très forte entre les parachas de la semaine, semaine après, et les époques actuelles. On en a eu la preuve éclatante cette semaine. Aujourd'hui, jour d'enterrement du dernier des otages d'Israël, Ran Gvili, Zichrono Libraha, eh bien, enlevé le 7 octobre, eh bien, il vient d'être enterré. Et la paracha nous parle de quoi? De l'enterrement, du fait que les ossements de Yosef ont été emportés avec les Hébreux à traverser la mer Rouge, etc., pour être enterrés en Eretz Israël. Un tout dernier point, si vous voulez bien, c'est la traversée de la mer Rouge. Je n'aime pas trop ce mot, parce qu'il n'y a pas eu vraiment traversée, il y a eu passage dans la mer Rouge. On est rentré à un endroit, on en est sorti à un autre qui n'était pas en face, qui était sur la même rive. Bon, mais ça, c'est l'objet de notre cours que je ferai peut-être, que je posterai peut-être dans quelque temps. Merci pour votre attention.